tombe froide sur le dalle. Cet avocat à la serviette, ce taupe qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
La fin du Fair et Club
de Radio Liberté.
À la semaine prochaine.
Au plaisir de vous revoir.
Bonjour à toutes et à tous, il est pratiquement 17h, les anards sont toujours un petit peu en avance sur le temps, il est 16h58 à notre pendule, nous sommes le mercredi 14 juin 2023, vous écoutez Au fil des pages, vous êtes sur Radio Libertaire, donc tout va bien, et merci de nous rejoindre sur ces ondes qui, je l'espère à chaque fois, sont vos ondes favorites. Aujourd'hui, Agnès, Frédéric, Dominique par téléphone comme d'hab, Marie, Francis et aujourd'hui notre invitée Nathalie Coily, l'une des deux commissaires de l'exposition imprimée à la BNF site François Mitterrand. Nous allons passer une heure et demie ensemble pour parler de nos lectures. Mais avant ces lectures, Frédéric, une annonce je crois.
Tout à fait. Le groupe Commune de Paris vous invite à le ciné de la Commune pour vous proposer la deuxième partie du documentaire « Notre terre mourra proprement ». Alors, c'est un documentaire de Catherine Fumet et François Guerouet. Ça aura lieu à la librairie Publico 145 rue Amelot, 75 011 Paris, le métro Oberkampf ou Filles du Calvaire. Et ça aura lieu, bien sûr, le mercredi 21 juin 2023 à 20h. C'est la deuxième partie. N'hésitez pas à venir néanmoins, parce que vous pourrez débattre du sujet des déchets nucléaires et de l'enfouissement de ceux-ci. Je te repasse le micro, Francis, à toi.
Merci. Alors, au cours de cette émission, hormis l'exposition imprimée, et c'est vraiment, je vous la conseille, il faut impérativement aller la voir, nous aurons la présentation d'une bande dessinée consacrée aux Ouïghours, le peuple Ouïghour, un livre qui va porter sur le résister ou régister, et c'est la Sevenol Agnès qui va nous éclaircir sur ce mot. Ensuite, Nathalie Kouali va nous faire partager sa passion pour l'imprimerie. Un peu d'histoire dans un troisième temps. Le fugitif, alors je vous signale que je ne vais pas pleurer sur eux, vous verrez ça, vous comprendrez pourquoi. Une touche de poésie ne fera pas de mal après ça. Et enfin, Dominique nous rejoindra pour nous présenter deux romans. Alors, premier temps de l'émission. Premier temps de l'émission, quelques nouvelles de la répression menée par le gouvernement de Pékin nous parviennent de temps en temps concernant le peuple ouïghour. Elle relate évidemment les souffrances de ce peuple. Mais Marie, est-ce que nous pourrions en savoir plus? Je crois que tu as découvert un livre récemment.
Oui,
à toi.
Oui, tout à fait. Donc c'est un ce que j'appelle plutôt un roman graphique, parce que... C'est un petit peu à distinguer d'une bande dessinée. Une bande dessinée, c'est plus, on va dire, du divertissement, hein, pour être gentil, bien sûr. Hein. Mais là, c'est vraiment un roman graphique, donc intitulé « Les Ouïghours, un peuple qui refuse de mourir ». Donc, petit rappel, bien sûr, les Ouïghours constituent donc une ethnie turcophone de confession musulmane installée dans la province autonome du Xinjiang, également appelé le Turkestan oriental, hein, les Ouïghours l'appellent comme ça. Et donc cette province, elle est située au nord-ouest de la Chine, elle est peuplée d'environ 11 millions de Ouïghours, hein, et elle est grande comme trois fois la France. Elle constitue un point stratégique important pour la Chine, hein, puisqu'elle possède des frontières communes avec 6 États, et surtout elle est la porte d'entrée de la Chine vers la Russie et l'Europe. Donc pour toutes ces raisons, le gouvernement chinois a constamment les yeux rivés, hein, sur le Turkestan oriental, puisqu'il convoite les richesses de cette région et tente de mater depuis plusieurs années maintenant une population ouïghour farouchement rebelle, hein, qui ne revendique absolument pas l'identité et la culture chinoise. Donc pour contextualiser un petit peu, sous la dictature de Mao Zedong, inspirée du stalinisme, les camps de rééducation, qui ont fait plusieurs millions de victimes, hein, bien sûr, ont été mis en place donc, dès la Seconde Guerre mondiale. Et à l'instar des goulags à la soviétique, les camps chinois, qui sont appelés les Laogai, étaient utilisés pour réprimer de la plus violente des manières, hein, les opposants au régime maoïste, par le biais de la torture mentale et physique. Donc il y avait un gros lavage de cerveau qui était opéré sur les internés des camps. Et donc, en fait, ces camps se sont étendus et ciblent désormais maintenant le peuple ouïghour du Turkestan oriental. Donc c'est le sujet de cette bande dessinée, justement, réalisée par le journaliste Éric Darbré, en collaboration avec Elliot Franck. Donc en fait, ce reporter, hein, Éric Darbré, relate tout son parcours d'investigation qui a débuté en 1996 et qui a contribué à lever le voile sur la persécution des Ouïghours par les autorités chinoises, hein, le gouvernement de Pékin. Et au-delà même de la persécution, hein, en fait, c'est un véritable génocide, hein, qui a été révélé. Car il y a 300 camps de rééducation et de prisonniers, des camps de travail aussi, qui ont été dénombrés. Hein. Et depuis 2014, Pékin intensifie en fait sa politique de répression envers les Ouïghours, tout en faisant croire, bien sûr, hein, sur la scène internationale, que le bonheur règne, hein, au Turkestan oriental, tout est bien, tout est rose, alors que plus d'un million de femmes et d'hommes Ouïghours sont actuellement prisonniers de ces camps. Et comme le démontre bien donc le reporter, hein, à la fin de la guerre froide, en fait, plusieurs États turcophones, hein, ont vu le jour en Asie centrale, Et en fait, ils ont donné des idées d'indépendance à ce peuple ouïghour qui était installé depuis plus d'un millénaire au Turkestan oriental. Et en fait, donc, ce peuple souhaite constituer son propre pays. Mais au début des années 90, donc, il y a eu des émeutes sanglantes au Turkestan, donc, entre les rebelles ouïghours et les autorités chinoises. Et ces émeutes n'ont pas beaucoup fait parler d'elles, d'autant plus que à cette période-là, les réseaux sociaux n'existaient pas, il n'y avait pas Internet. Donc forcément, les nouvelles, les informations mettaient beaucoup plus de temps à parvenir, à faire le tour du monde. Et donc, Éric Darbré a d'ailleurs eu, à cette époque, beaucoup de mal en fait, à convaincre les médias français de relayer les témoignages et les informations qu'il a pu récolté à la suite de ses divers séjours au Turkestan. Il était d'ailleurs, en fait, il a pu aller là-bas, non pas donc sous la carte d'un journaliste, mais en fait, il a été là-bas en tant que touriste. Et puis, il a fait son reportage un peu de manière clandestine pour pas être arrêté. Et donc, en fait, à cette période-là, dans les années 90, donc, ni les journalistes ni les dirigeants occidentaux n'ignoraient la répression féroce que le gouvernement chinois commençait bien à exercer sur les Ouïghours. Mais par exemple, les Tibétains ont été également très oppressés par le gouvernement chinois. Et donc, dans les années 96-97, en fait, ça a été vraiment décisif dans le cadre de l'intensification des offensives chinoises au Turkestan et également des représailles ouïghours par le biais notamment des divers attentats à la bombe qui ont eu lieu. Et en 98, Éric Darbré a cherché à retourner au Turkestan oriental, mais il manque de soutien. Et par chance, il rencontre une chercheuse en géopolitique qui vient en Turquie et qui va pouvoir l'introduire dans le milieu fermé des militants pour la cause ouïghour, qui sont notamment basés à Istanbul. Il recueille alors des témoignages de Ouïghours qui ont réussi à fuir la répression chinoise et raconte en fait l'horreur qu'ils ont vécue. Donc Éric Darbré a d'ailleurs pu s'approcher au plus près des camps de rééducation et des camps de travail en fait, qui sont bien fermés par les autorités chinoises. Ils sont situés en plein désert d'ailleurs et entourés de brouillards d'ombre. Mais en fait, donc, dans ces camps, il y a eu donc, les pires horreurs, des actes de torture, des mises à mort gratuites, des avortements sous contrainte aussi de femmes ouïghours enceintes de 8 mois. Certains hommes aussi ont témoigné, j'ai entendu ça dans un reportage passé récemment, certains hommes ont témoigné avoir reçu des coups de matraque électrique sur les testicules. Bon, voilà. En fait, la pratique génocidaire est clairement démontrée par ces actes de barbarie qui constituent qui consistent à empêcher le plus grand nombre en fait de naissances et de conceptions d'enfants ouïghours. Et au tout début des années 2000, Éric Darbré en fait démontre bien que la France et les États-Unis ont tenté, par le biais de leurs services de renseignement, d'infiltrer la résistance ouïghour. Mais bon, ils ont brillé par leur inaction et leur indifférence. En fait, ils ne cherchaient absolument pas à vouloir essayer de régler le problème, en fait. Et d'ailleurs, en fait, clairement, le reporter le démontre bien dans cet ouvrage. Pas beaucoup d'États à ce jour s'opposent à la Chine, en fait, au gouvernement chinois, parce que les enjeux sur le plan international, sont beaucoup trop importants. Personne n'ose en fait affronter la deuxième puissance militaire. Et pourtant, en 2021, un tribunal d'opinion a clairement démontré en fait que le génocide ouïghour était pratiqué. Mais il y a encore tout ce travail en fait qui reste à faire pour essayer de sanctionner la Chine. Mais c'est encore trop. Enfin, les États en fait n'osent absolument pas s'emparer de cette question-là. Et ça, c'est clairement bien démontré à la fin, justement, de ce roman graphique.
Alors, comment s'appelle ce livre ?
Les Ouïghours, un peuple qui refuse de mourir, donc par Éric Darbré et Elliot Frank. Il est paru en septembre 2022, donc aux éditions Marabout. Voilà, c'est
d'accord.
Collection Marabule. Voilà.
Et évidemment, ce livre, comme tous les autres livres dont nous allons parler, vous pouvez le retrouver sur le site de Publico et aller bien évidemment à la librairie Publico 145 rue Amelot. Frédéric, un extrait de chant ouïghour justement avant de passer à une autre thématique. Alors nous avions dit que c'était un extrait, je vous invite à écouter cette musique que nous avons eu le plaisir de trouver sur France Culture, sur le site de France Culture. Alors, un autre thème, Élisée Reclus. Élisée Reclus avait publié en son temps un petit livre plaisant qui voulait faire comprendre le lien entre la nature et les êtres humains. Et il insistait aussi sur la notion de solidarité. Précieux ce message d'espoir après ce que nous venons d'entendre sur les Ouïghours. Alors, il s'agit du livre « Histoire d'un ruisseau ». Nous parlons fréquemment d'Élisée Reclus dans notre émission. Les livres se succèdent aujourd'hui, présentant sa vie, ses engagements, mais constatons aussi la réédition de ses propres ouvrages. Alors, hormis les sommes, La nouvelle géographie universelle et L'homme et la terre, qu'il a publié en plusieurs volumes, il existe aussi des textes militants et en même temps empreints de poésie. C'est toujours ce qui caractérise le style d'Élisée Reclus. C'est le cas de L'histoire d'un ruisseau, réédité aux éditions Le Pommier, avec une charmante couverture. Écoutez l'incipit. L'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l'histoire de l'infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l'argile. Elles ont été neige sur la froide montagne, molécules de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots. Le soleil, dans sa course journalière, les a fait de l'hydrogène et de l'oxygène, puis, d'un nouveau choc, a fait ruisseler en eau ces éléments primitifs. Tout Reclus est là. Poésie, qualité rédactionnelle, connaissance scientifique de son temps, vulgarisation des données. Il décline la vie d'un ruisseau, du glacier jusqu'au fleuve, en passant par le torrent, les montagnes, les reliefs que dessine et respecte ce fleuve. Vous verrez, les passages sont vraiment charmants. Et c'est aussi un appel à la liberté. Le ruisseau trace son chemin. Les chapitres montrent ce parcours avec des titres très courts. La source, la grotte, le ravin, les remous, le cycle des eaux, la pêche, le bain, les fontaines de la vallée. Ce parcours accrédite l'idée chère à Reclus, celle du progrès, susceptible de s'inscrire vertueusement au sein d'un milieu. Je cite Reclus. Un idéal commun de justice et de liberté. Les peuples, devenus intelligents, apprendront certainement à s'associer en une fédération libre. L'humanité, jusqu'ici divisée en courants distincts, ce ne sera plus qu'un seul fleuve, un seul et même fleuve, réuni en un seul flot, et nous descendrons ensemble vers la grande mer où toutes les vies vont se perdre et se renouveler. Évidemment, c'est un idéal anarchiste. En complément de ce texte, les éditions du Pommier ajoutent un texte dont j'ai déjà parlé, du sentiment de la nature dans les sociétés modernes. Un texte à relire impérativement, tant pour l'enthousiasme de ses contemporains à l'égard de la nature, hein, à l'époque déjà, que pour les pages d'une rare actualité consacré aux dégâts provoqués par la civilisation capitaliste, ce que nous vivons malheureusement aujourd'hui. N'oublions jamais que ce texte du sentiment de la nature a été écrit dans les années 1860. Je trouve qu'il est étonnamment prémonitoire. Vous lirez tout cela, c'est toujours un très grand moment que de relire un texte d'Élisée Reclus. Je rappelle donc le titre, Élisée Reclus, Histoire d'un ruisseau, suivi du sentiment de la nature dans les sociétés modernes, aux éditions Le Pommier en 2023. Et puisque nous sommes dans un monde de ruisseaux, de musique, bien écoute, un peu de Ravel, Jeu d'eau, interprété par Martin Argerich, un extrait en tout cas. Enfin, Agnès, même au plus profond de la souffrance, il y a la volonté. Il y a la volonté de résister, comme l'a inscrit dans la pierre d'une prison à Aigues-Mortes, une détenue. Alors tu vas nous parler de ce livre, Résister. Dis-nous tout.
Oui, c'est un livre écrit par Jean Pochabrol. Le titre est Résister, petite histoire d'un graffiti célèbre. Et il est paru aux éditions Ampolos. En fait, où se trouve ce graffiti? Ce graffiti est graffé à la pointe sèche et a été découvert sur la margelle d'une ouverture ronde de la salle supérieure de la tour de Constance à Aigues-Mortes. Aigues-Mortes est une petite ville d'Occitanie édifiée par Saint-Louis pendant les croisades, une ville fortifiée dont l'élément central est la dite tour de Constance, bâti pour protéger le port et la cité. Cette tour servit de prison au milieu du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est entre 1686 et 1768, presque 100 ans, qu'elle fut exclusivement réservée aux protestants, à la suite de la révocation de l'édit de Nantes interdisant le culte. Cachot pour des hommes avant leur jugement ou leur départ pour les galères, mais surtout de femmes emprisonnées pendant de très longues années. L'inscription « Résister » est gravée « Régister » sera attribuée à l'une de ses prisonnières, Marie Durand, enfermée pendant presque 40 ans dans cette enceinte.
Et pourquoi les enfermait-on, ces femmes?
Il fallait qu'elles renoncent à leur foi contre la liberté. Et pour la plupart, elles ont résisté et ont accepté d'être prisonnières.
D'où le terme.
Voilà. Jean-Paul Chabrol est un historien agrégé d'histoire, mais aussi spécialiste des Cévennes et des Camisards, en fait. Et il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages consacrés à la guerre des Camisards. Dans cet essai, il reprend tous les éléments historiques retrouvés concernant la découverte de ce graffiti, afin d'authentifier l'auteur, difficile à vérifier certes, mais aussi l'histoire de ce verbe résister, sa puissance symbolique pour les Camisards, mais aussi pour tous les protestants de France et d'Europe pendant des siècles. Aussi, n'est-il pas étonnant que le graffiti ait été utilisé pour soutenir toutes les causes de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours, pour résister au pouvoir et à la tyrannie de bien des conflits et dictatures. L'auteur se sert pour ses recherches de textes et allocutions écrits par des pasteurs ou des protestants très investis dans la vie de l'Église. Le premier auteur à faire connaître ce graffiti est le pasteur du Réveil, François Puau, en 1866. Je cite « Ce qui nous a le plus profondément impressionnés, c'est un mot gravé patiemment avec un clou ou une pointe de couteau sur la pierre circulaire qui sert d'ouverture à la rotonde inférieure. Ce mot, le voici, régister. Ah, c'est bien le mot qu'il fallait pour les victimes de la plus lâche et la plus cruelle oppression qui fut jamais. Pauvres infortunés, sans cesse tentés par l'appât de la liberté et auxquels il suffisait de dire « Nous adjurons pour fouler de leurs pieds cette terre des Cévennes qui s'aimait tant. » Les pasteurs Charles Froissart, Daniel Benoît, Gédéon Benoît de Saint-Ambroise, l'historien Gaston Tournier, le pasteur Charles Don, l'illustrateur Samuel Bastide, le peintre Jean Lombard. Bref, de nombreuses personnes ont ancré dans le cœur des protestants la mémoire de ce graffiti par leur allocution et leur témoignage ainsi que leur illustration. Certains mettront en doute le sens du verbe résister, apposé à un autre graffiti découvert comme les pasteurs Laroche et Fayot, le commandant espérant Dieu dans les années 1920. Dans les années 30, un protestant hollandais, J.W. Malmerstein, qui avait entamé des recherches sur Marie Durand et parcouru des courriers qu'elle aurait adressés à sa nièce, laisse penser qu'elle avait eu une écriture si parfaite qu'elle ne pouvait pas être de ce fait l'auteur de ce registé, avec un G, relevant plutôt d'un patois ardéchois de quelqu'un de plus maladroit et possiblement plutôt gravé par le camisard Abraham Mazel, qui avait réussi à fuir la tour de Constance. Ces articles ne sembleront pas avoir provoqué de réaction, et malgré la mise au point de Malmerstein, l'opinion protestante est largement convaincue que Marie Durand est l'auteur de cette inscription. Il n'est pas plus important de savoir en fait si c'est Marie Durand qui l'a gravé ou un inconnu, que de rechercher le sens précis de ce graffiti mêlé à d'autres, comme l'explique Jean-Paul Chabrol dans son livre. Cela n'enlève en rien la puissance de ce message et la compassion reconnue à Marie Durand dans toutes les épreuves qu'elle a pu subir. Son message est « Résister à l'oppression ».
Ça convient assez bien sur Radio Libertaire.
Voilà.
Tu peux poursuivre.
En septembre 1935, l'écrivain protestant André Chanson prend la parole au musée du désert à Mialé, dans le Gard, inquiet de la situation politique et des dangers de l'Allemagne nazie. Je cite « Voilà l'exemple que nos Cévennes donnent à l'homme. Elles lui disent, par toute leur structure, toute leur histoire, par toute leur humanité, que résister, c'est d'abord ne pas s'arrêter à la persécution, ni à la calomnie, ni à l'injure. Puis, s'il le faut, que c'est combattre, et puis que c'est vainqueur ou vaincu, que c'est de résister quand même, c'est-à-dire rester semblable à ce que l'on a, ce qu'on est juste, jusque dans la défaite et jusque dans les fers. L'histoire de Marie Durand, comme dit Jean-Paul Chabrol, dépasse le monde protestant. Je cite à nouveau « une culture attentive à toutes les formes d'insoumission ou de rébellion, à une empathie envers toutes les luttes pour la justice et l'égalité. Les 5 années de guerre ont donné au verbe « résister » une intense signification qui ne peut échapper à personne. Marie Durand devient la pionnière de la résistance et de bien d'autres combats. L'histoire du verbe « résister », de son invention à nos jours, témoigne du très fort attachement des protestants à leur histoire cévenole. Moi-même, protestante, de tous mes souvenirs du visite à Aigues-Mortes, je garde toujours la même émotion devant cette inscription que j'ai toujours lue, régistée, et toujours le rappel de l'émotion portée par ma mère.
Par ma mère, oui, c'est ça, hein, par ta mère. Hein, qui parlait elle-même du courage exemplaire de cette femme.
Voilà.
Hein, c'est assez... Et alors, ce graffiti, on le retrouve ailleurs?
On le retrouve sur les sites importants du protestantisme, comme le musée du désert ou la camp de l'hospitalier. Où il se rassemblait en... Pardon.
En cachette, je
en
crois.
En cachette,
non,
hein, et où il se... Où ils se rassemblent toujours, les Huguenots, en souvenir.
Tu peux nous donner le titre du livre?
Oui, c'est Résister, petite histoire d'un graffiti célèbre, de Jean-Paul Chabrol, donc, aux éditions Ampelos.
Ampelos, que nous avons rencontré au salon de l'autre livre récemment, je crois que c'était au mois d'avril. Et Jean-Paul Chabrol, je crois que tu le connais.
Voilà, il habite le village où je passais mes vacances.
Voilà. Alors, ces protestants, ben, vraiment, ils sont partout. Ils sont même dans l'imprimerie, j'ai cru comprendre. Et l'un d'entre eux est même le créateur d'un caractère, le Garamond. Et on a justement aux éditions Ampelos, à la fin de la présentation du livre, il y a toujours une petite mention en soulignant que ce livre a été imprimé sur du Garamond et en rappelant les souffrances qu'a connues ce personnage. Alors, dans Au fil des pages, ben, on est passionné par le livre, par son écriture, par son impression. Et lorsque nous avons eu connaissance de l'exposition imprimée, à la BNF, bien évidemment, on s'est précipité pour la visiter, pour la goûter. Et aujourd'hui, on a vraiment le grand plaisir, et ce n'est pas fin, de recevoir Nathalie Coily, l'une des commissaires de cette exposition. Alors Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice à la BNF, et alors à la réserve des livres rares, et vous êtes chargée des collections du 15e.
Oui, c'est ça.
Ça fait rêver, ça.
C'est pas mal. Ça motive,
le 15e,
ça
alors
motive
c'est...
pour se lever le matin. Je comprends bien.
Les collections du 15e, c'est
alors,
quelques auteurs.
À la réserve, ce sont les collections d'imprimés. Donc on parle uniquement des ouvrages imprimés, pas des ouvrages manuscrits, mais ce sont les livres qui ont été fabriqués à partir de Gutenberg. Gutenberg étant considéré comme la personne qui a mis au point la technique pour l'Europe. Et effectivement, tous ceux qui se sont appropriés cette technique à sa suite ont composé des livres qui sont aujourd'hui, pour la deuxième moitié du 15e siècle, conservé à la réserve.
À la réserve qui est au site François Mitterrand.
Exactement, sur le site François Mitterrand, oui. Oui.
Qu'est-ce que nous avons à Richelieu?
Alors les départements dits spécialisés, notamment, bon, je vais en oublier, hein, mais bon. Le département des manuscrits, le département des estampes et de la photographie, on raisonne un peu par support et par type d'objet. Département des monnaies et médailles, département des cartes et plans. Et le site François Mitterrand conserve tous les imprimés, quelle que soit leur date, y compris les plus anciens. Et donc, ceux dont j'ai la charge en font partie.
D'accord. Alors, il nous reste un mois pour découvrir les trésors que vous exposez dans comment avez-vous eu l'idée de faire cette exposition imprimée? Qu'est-ce qui vous a motivé?
Alors, peut-être le premier motif est un peu souterrain, parce qu'en fait, le catalogage, c'est-à-dire le signalement de ces livres, est assez complexe. Et à la Bibliothèque nationale, ça a pris la bagatelle de 40 ans. Et on en voit le bout, actuellement. On en voit le bout, mais donc c'est un travail qui est peu visible du grand public, hein, ce qui est bien normal, qui s'adresse plutôt à des spécialistes. Et l'idée était d'avoir un versant grand public de cet événement qui permette de mettre à profit toutes ces connaissances mises à jour, et puis surtout d'exposer au plus grand nombre des livres qui sont quand même assez peu montrés, qui sont communicables dans les salles de lecture, mais c'est vrai qu'ils sont peu montrés au grand public. Donc l'idée, c'est vraiment d'en faire un événement de manière très consciente, très accessible, et vraiment d'en profiter.
Alors nous avons tous appris que Gutenberg avait découvert l'imprimerie. Et puis, quand on regarde on visite votre exposition, bien, on doit corriger cette information. D'où vient l'imprimerie?
Oui, oui. Les mots ne sont pas neutres. Et quand on parle de découverte ou d'invention, effectivement, on y met une intention dans ce terme qui n'est pas neutre du tout. Alors, je vous rassure, ce n'est pas complètement faux ce qu'on a appris à l'école.
Bon.
Mais oui. Non, c'est important, hein, ne tremblez pas. Ça n'est pas faux, mais c'est vrai que c'est à nuancer très largement. Les témoins les plus anciens d'impression, et j'emploie le terme un petit peu au sens générique, sont asiatiques, viennent de Chine, de Corée, du Japon également, et les plus anciens témoins sont très très anciens, on remonte à la fin du 7e ou au début du 8e siècle. Les témoins occidentaux datent de 1400 environ pour les plus anciens, donc on a vraiment des chronologies extrêmement disjointes. Donc effectivement, Gutenberg, y compris, peut-être on y reviendra, mais il y a deux techniques majoritaires, disons, la xylographie et la typographie, et y compris pour les solutions qui individualisent les lettres de l'alphabet, pour le dire vite, qui est celle de Gutenberg, effectivement, il y a des précédents asiatiques.
Il y a même des pièces, je crois, qui n'ont jamais été montrées en France, ou qui sont très rarement,
enfin, le Jigji, le Jigji, qui est le plus ancien imprimé typographique daté, connu au monde, et coréen.
De quelle date ?
1377. Ça veut dire qu'on est à peu près 70 ans avant la Bible de Gutenberg, ce qu'on a tendance à considérer comme le premier livre imprimé. En fait, c'est le premier grand livre imprimé occidental.
Et ce livre de Corée, là, c'est là.
Tout à fait. Hein, il a été imprimé dans un monastère qui se trouverait actuellement en Corée du Sud.
D'accord. Et puis, en Europe, il y a aussi des expériences, mais quelques années après, notamment. Une pièce qui est rarement exposée, j'ai cru comprendre, le bois Prota, qui date de 1420. Quelle est cette technique ? Vous pouvez nous l'expliquer ?
Le bois Prota, effectivement, c'est une pièce extrêmement importante pour l'Europe, pour la chronologie des techniques d'impression européennes.
Ça vient
parce que c'est le... Ah, il a été découvert en Bourgogne. Par hasard, pour le coup, parce qu'il servait de contre-marche. Donc, il a été conservé un peu par hasard et de remploi. Et les gens qui sont tombés dessus ont décelé que c'était une pièce extrêmement ancienne. Et de fait, c'est la plus ancienne matrice d'impression conservée pour l'Europe. Alors, une matrice d'impression, c'est quoi ? C'est une planche de bois qui est gravée en relief, sur laquelle on va répandre de l'encre et on va mettre en contact donc cette matrice avec une feuille de papier, et c'est ainsi qu'on transfère l'encre et qu'on pratique l'impression. On a tous déjà joué avec des tampons encreurs, en fait on a pratiqué l'impression. Et l'impression par technique xylographique, en Asie comme en Europe, c'est la technique la plus ancienne. Elle est relativement simple à mettre en œuvre. Il y a des avantages et des inconvénients à tout, mais la xylographie présente quelques avantages.
Que représente le bois Prota ? Qu'est-ce que c'est, une scène religieuse ?
Oui, alors il est amputé, mais malgré tout, il est assez grand. Je pense qu'on peut être surpris par la taille de ce bois, qui fait une soixantaine de centimètres de haut. Donc c'est assez spectaculaire, et même quand on a la chance on est toujours un peu surpris par sa taille. Ça représente une crucifixion. Alors aujourd'hui, c'est très entamé, donc on a encore la hauteur, mais sur la largeur, il en manque à peu près la moitié. Donc on devine effectivement une scène de crucifixion. C'était probablement employé pour reporter le motif, hein, donc soit sur du papier, soit sur du tissu. On n'est pas sûr à 100%. Voilà. Et alors, ces techniques de xylographie en Europe ont été employées avant Gutenberg pour produire des images pieuses. Donc vraiment, une technique qui est destinée à une diffusion. Ça, c'est assez important dans le contexte européen, que ces techniques d'impression, première technique d'impression, aient déjà servi à une forme de diffusion. Parce que c'est assez caractéristique du contexte européen.
Et ce n'est pas du texte, ce sont des images.
Effectivement, là, au cas particulier, ce sont des images. Les images qui servaient à la dévotion privée sont aussi des images essentiellement, mais... Rien n'interdit de graver du texte, c'est tout à fait possible, et on pense qu'on savait produire des petits livrets avant Gutenberg au moyen de ces techniques. La difficulté pour notre période, c'est les sources, hein. C'est les sources et les témoins conservés. Il y a quand même beaucoup de choses qui ne se sont pas conservées.
Et ce bois Prota qu'on a trouvé en Bourgogne, il aurait été fabriqué en Bourgogne ou ailleurs ?
Non, ça c'est pas sûr. Alors, en des temps où les savants allemands et les savants français travaillaient moins main dans la main qu'aujourd'hui, savoir si le bois Prota a été gravé en France ou en Allemagne, ça pouvait avoir une importance. Aujourd'hui, en fait, on admet qu'on n'en sait pas grand-chose et que peut-être il a été gravé en Allemagne ou quand même... Un peu tout se passe dans la première moitié et mi-15e siècle. C'est vraiment là qu'on rencontre toutes les techniques de fabrication du multiple. Et on a quand même de bonnes raisons de penser que le creuset technique européen, là où ça bouillonne, là où on a toutes les bonnes idées, c'est plutôt l'Allemagne et la vallée du Rhin. Et
bon, mais alors soyons franchouillards, le bois, ce bois, il est chez nous.
Là, il est conservé à la Bibliothèque nationale.
Il est à la BNF.
Et il est visible dans le musée Richelieu. En fait, là, on l'en a extrait très exceptionnellement parce que c'est extrêmement fragile, très très sensible aux vibrations, donc on le déplace très peu. Mais dès que l'exposition sera terminée, il sera de nouveau visible au musée Richelieu, donc en permanence.
Parce que sur le site François Mitterrand, nous avons des expositions temporaires, mais il ne faut pas oublier le musée de la BNF, qu'on a eu aussi l'occasion de visiter, qui est absolument magnifique, oui, avec des pièces extraordinaires et qui, oui, circulent tous les 4 mois.
Oui, parce que les livres, c'est relativement fragile, donc oui, on les fait tourner tous les 4 mois.
Alors, quel a été le rôle de Gutenberg?
Ah oui, il ne faut pas tout lui retirer. Il a probablement été la personne qui, en Europe, a eu la bonne idée, c'est-à-dire de mettre au point le processus d'imprimerie à caractère mobile métallique. Si on voulait être toujours précis, au lieu de dire imprimerie, on dirait imprimerie à caractère mobile métallique, ce qui signifie qu'on individualise bien les lettres de l'alphabet, et la typographie c'est ça. C'est qu'on fonctionne avec du matériel imprimant qui individualise les lettres de l'alphabet. Il se trouve que dans l'alphabet latin, ça fonctionne très très bien, beaucoup mieux que qu'avec les idéogrammes en réalité, puisque notre alphabet est tout petit et très combinable. Donc Gutenberg est la personne qui a eu l'idée de recombiner des techniques qui venaient de l'artisanat du métal et des techniques qui venaient des arts graphiques, l'exilo par exemple, et de les recombiner. Donc au fond, il n'a rien inventé, tous les éléments clés de la typographie, du processus typographique lui préexistent, mais lui, il a eu l'idée de les recombiner en un processus qui s'est avéré extrêmement pertinent et très performant dans un contexte marchand en réalité.
Et dans l'exposition, on s'aperçoit qu'il n'était pas un homme seul, mais qu'il savait s'entourer, oui, quitte à se disputer après avec... c'est le monde des affaires, on va dire ça comme ça.
Oui. Non, c'est une chose à laquelle on tenait beaucoup, c'était de montrer que Gutenberg n'était pas un homme seul. Alors d'abord parce qu'on a des sources d'archives qui nous montrent qu'il travaillait en association. Aujourd'hui, on dirait que c'est un entrepreneur. Voilà, le terme qu'on emploierait spontanément aujourd'hui, c'est de dire c'est un entrepreneur, et il sait s'entourer de gens qui ont des compétences qu'il n'a pas et de gens qui ont des capitaux qu'il n'a pas, ce qui a son importance dans ce sujet.
C'est d'une actualité rare, ça.
Mais exactement, ouais, il y a plein de points communs avec, avec aujourd'hui.
Alors, on rappelle la ville dans laquelle il aurait, oui, soi-disant découvert, en tout cas il était établi.
Mise en œuvre pour la première fois, en tout cas Mayence. Il est né à Mayence, c'est vraiment là qu'il a probablement livré les premiers livres imprimés. En revanche, il a vécu un temps à Strasbourg et on pense que la période de maturation doit beaucoup aux années strasbourgeoises. Et ce qui me semble important, c'est de comprendre qu'effectivement, il y a une phase d'expérimentation probablement un peu longue et que ce n'est pas une découverte fortuite, la typographie. Mmh. Il a vraiment gambergé un moment.
Alors, il y a aussi une profusion d'expériences. Et dans le catalogue qu'il faut évidemment avoir, qui est vraiment d'une grande richesse, il y a Mathieu Arnoux. Qui est Mathieu Arnoux déjà?
C'est un historien. On avait envie que l'ouvrage s'ouvre sur le texte d'un historien. Il y a plein d'historiens du livre qui ont livré des contributions exceptionnelles dans l'ouvrage, mais ça nous semblait important de poser déjà tout le contexte en fait en Europe. Effectivement, quel était le contexte matériel, quel était le contexte commercial.
Alors lui, il en fait état.
Oui.
De toutes ces profusions d'expériences, oui, c'est étonnant quand on...
Oui, oui, c'est vraiment c'est une ligne directrice de l'exposition aussi, de montrer que... Alors d'une part, il y a effectivement tout un creuset technique qui en Europe est déjà très foisonnant, donc on tourne autour de l'idée, mais on a déjà beaucoup de choses qui sont opérationnelles, et que Gutenberg connaît, ça on en est certain, et qu'il va mettre à profit. Et puis après sa mise au point, il y a tous les typographes qui vont s'emparer de son idée, qui, si ça a fonctionné, si ça n'est pas resté une bonne idée dans un tiroir à Mayence, c'est parce que d'autres typographes s'en sont emparés, l'ont perfectionné et ont innové à leur tour. C'est vrai qu'on avait vraiment très envie de mettre en valeur cette dimension un peu collective en fait de l'innovation.
Alors, on parle toujours de la Bible de Gutenberg. Alors d'abord, la Bible, elle est en 4 volumes, là. Vous l'exposez en 4 volumes.
Oui, oui, oui.
C'est extraordinaire, d'ailleurs. La muséographie est fabuleuse.
Ouais. Là, c'était un choix très conscient aussi. Très souvent, quand on montre la Bible de Gutenberg, déjà, on ne la montre pas souvent, mais quand on la montre, on montre en général un volume. Or, la Bible de Gutenberg, c'est la Vulgate latine, donc c'est le texte sacré dans sa version latine, celle de Jérôme. Et donc, c'est 1300 pages de texte. En fait, c'est énorme. S'attaquer à la Bible, imprimer la Bible, c'était colossal.
D'autant que c'est pas du papier Bible.
Exactement. Donc, c'était absolument colossal. Et donc, la Bible de Gutenberg, aujourd'hui, c'est en général 2 volumes. Et il se trouve que la Bibliothèque nationale en conserve 2 exemplaires. Et donc, on a voulu montrer, en fait, cette série pour montrer quel coup de tonnerre ça a été au milieu du XVe siècle que d'imprimer la Bible, ce texte majeur sur lequel on n'a pas droit à l'erreur, et la quantité de travail que ça supposait. Parce que ce qu'on avait imprimé avant en Europe, on avait imprimé des petites choses avant, mais des petites choses justement, des calendriers, des lettres d'indulgence, donc des choses qui représentaient entre un et quelques dizaines de feuillets. Mmh. Mais là, c'est vraiment un travail colossal.
Oui. Et donc, il en a imprimé combien ?
Alors, là, pour le coup, on a une source très fiable et c'est très exceptionnel pour l'époque. On sait qu'il en a imprimé entre 150 et 180 exemplaires. Donc, par rapport au rendement d'un moine copiste ou d'un copiste professionnel, c'est vraiment énorme. Et ça a été... La puissance du processus typographique est vraiment la chose qui a été le plus admirée par les contemporains, qui les a le plus frappés, de toute évidence.
Et on imprime que des textes à caractère religieux ou bien est-ce qu'on imprime des textes, des poésies, d'autres
Alors c'est vrai que dans la deuxième moitié du XVe siècle, on imprime quand même beaucoup de livres très savants. C'est-à-dire on s'adresse vraiment à des lecteurs qui sont quasiment des professionnels, c'est-à-dire des théologiens, des juristes, des gens qui sortent de l'université. Pour l'époque, il y a quand même peu de gens qui sont alphabétisés à l'époque, hein. On estime 10% de la population. Donc c'est vrai que l'essentiel de ce qu'on imprime, c'est quand même très très savant. Donc c'est de la liturgie, du droit, des classiques latins, des sciences. Mais on imprime aussi, et de manière assez saillante au fur et à mesure que les décennies passent, des livres qui ne sont pas publiés en latin mais en langue vernaculaire et qui s'adressent à de nouveaux cercles, en fait, de nouveaux cercles de lecteurs et beaucoup des populations urbaines actives. Et donc là, effectivement, on va imprimer de la littérature, du théâtre et même des choses plus périssables comme des petites, ce qu'on appelle les petites pièces de circonstance qui sont un peu les ancêtres de nos journaux, qui sont vraiment des petits opuscules par lesquels on va faire circuler des nouvelles. Donc des choses quasiment périssables finalement.
Et le livre va devenir un objet politique, donc un objet de censure à un moment donné.
Alors dans un premier temps, le commerce du livre est très libre. C'est assez frappant pour la deuxième moitié du XVe siècle. Mais le livre imprimé va devenir un objet, alors très consciemment, un outil de manière très consciente pour les humanistes qui vont prendre conscience assez rapidement de la très grande responsabilité qu'ils ont sur l'établissement des textes. Et le livre imprimé devient aussi une arme de combat pour les réformateurs, donc pour Luther notamment. Donc effectivement, il y a un enjeu. Il y a un enjeu qui va se cristalliser plutôt dans la première moitié du XVIe siècle, effectivement, quand la crise politico-religieuse s'est vraiment nouée. Il y a un homme d'État qui a pris conscience assez tôt du pouvoir de l'imprimerie en termes de propagande politique, c'est Maximilien de Habsbourg, qui est l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et c'est probablement lui qui, le premier et le mieux, a compris comment il pouvait instrumentaliser l'imprimé pour construire son image à des fins de propagande.
Oui, tout à fait. On voit des... Et alors, là, dans les différentes salles, vous avez fait le choix d'un parcours chronologique. Quelles sont les grandes étapes, rapidement ?
Alors, pour parler de l'Europe, on peut dire que les impressions xylographiques apparaissent, ou en tout cas les plus anciens témoins qu'on ait, c'est vers 1400. Donc si on se rappelle de la chronologie asiatique, on est très très loin. Mais vers 1400, la xylographie. Vers 1450, donc pour le coup, la mise au point de Gutenberg, l'imprimerie à caractère mobile ou typographie. Et puis on peut dire qu'à partir de 1480, pour le coup, l'imprimerie devient majoritaire. Enfin, elle est vraiment installée dans le paysage, on ne reviendra plus en arrière. Il y a vraiment quelque chose, une étape qui est franchie. Mais on va considérer que la fin de la période de transition, c'est vers 1510-1520, c'est-à-dire le moment où vraiment on a complètement abandonné le modèle médiéval et où on est passé à une nouvelle norme, par exemple en termes de mise en page. Vraiment, à partir de 1520, le livre, c'est un livre moderne qui ressemble complètement à ce dont nous avons l'habitude. On a vraiment perdu les habitudes héritées de la calligraphie, héritées du manuscrit.
Alors, on a des belles pièces, là, hormis la Bible. Quelles sont les pièces qu'il ne faut pas rater ?
Il ne faut pas rater. Alors, vous ne raterez pas. Oui. Le Gigier, le Bois Prota, parce qu'effectivement, ils sont très en beauté. Et la Bible, bien sûr. Effectivement, il y en a beaucoup de très beaux livres. Je pense qu'on peut voir les grands livres d'artistes, en particulier les chroniques de Nuremberg, l'Apocalypse de Dürer, ou les livres royaux enluminés. Après, moi, ceux que je préfère, c'est assez subjectif, sont des œuvres plus modestes. J'aime bien le livre qui a appartenu à Louise de Savoie et on la voit avec son petit garçon qui est le futur François Ier. Je trouve ça assez touchant. Et puis un livre dans lequel un lecteur médiéval a oublié ses lunettes. Et en fait, les lunettes ont laissé une jolie trace d'oxydation. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux. Je crois que c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour tomber sur ce genre de traces qui abolissent le temps. Voilà, c'était il y a 500 ans, c'était hier.
On voit les lunettes rondes, enfin la marque c'est des ça. Lunettes rondes. Ouais. On a aussi ces livres avec une chaîne.
Oui.
Comment ça annonce ?
Non, c'est les reliures à chaîne, effectivement. Il y en a très peu à la Bibliothèque nationale parce que ça gêne un peu ce petit bazar là pour les ranger aujourd'hui. Donc souvent à l'époque moderne, on a supprimé, en fait, on a fait sauter les chaînes. Et donc aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir une reliure médiévale, on a souvent plus que la trace justement d'oxydation de la chaîne. En fait, ça servait dans les bibliothèques collectives et notamment dans les couvents à maintenir en place les livres qui n'étaient pas dédiés au prêt, c'est-à-dire qui ne devaient pas sortir. Aujourd'hui, en bibliothèque, on appelle ça les usuels. Oui. C'est vraiment les livres qui restent à la disposition de tout le monde. Et pour être sûr que personne ne parte avec et que ça reste bien disponible, on les enchaînait.
Oui, la chair est faible. Alors, vous exposez aussi une presse. Bon, c'est pas la presse de Gutenberg.
Non, malheureusement, le matériel conservé est très rare. C'est une vraie question, d'ailleurs, dans ce type d'exposition. On aurait aimé montrer plus de matériel, mais c'est vraiment rarissime. Donc, cette presse, c'est une reconstitution qui a été réalisée par le musée Gutenberg de Mayence, donc par des collègues qui l'ont reconstituée à partir des sources disponibles. C'est une presse en bois, à bras. Donc, l'enjeu, c'est d'exercer, en fait, une pression à la fois très forte et très égale sur toute la surface de la page. On peut penser qu'elle est un poil plus grande que celle que Gutenberg a utilisée. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur cette reconstitution.
Et je crois que vous faites des démonstrations.
Oui, absolument. Il faut absolument, dans la mesure du possible, passer entre 14 et 16 heures, ou les collègues, et même 14 et 15h30, où les collègues font des démonstrations de cette presse. C'est très, très éloquent et très spectaculaire.
Alors, j'ai beaucoup aimé aussi la dernière salle, c'est celle qui expose des avis, les avis d'Erasme, d'Henri Étienne, de Dubellay. Tout le monde ne s'extasie pas à l'arrivée de cette nouvelle technique en disant qu'il y a peut-être des dangers.
Oui, tout à fait. Dans un premier temps, il y a une première phase. Frédéric Barbier, grand historien du livre, disparu récemment et qui a signé la conclusion de notre catalogue, dit qu'il y a une phase un peu béate, une première phase voilà, où on a vraiment admiré la nouvelle technique. Mais les gens qui en parlent sont des typographes, donc d'une certaine manière, ils sont un peu jugés partis. Mais après quelques décennies, après qu'on ait un peu mesuré en fait les effets de l'imprimerie, alors effectivement il y a toujours des effets positifs, notamment la baisse du prix du livre, la facilité qu'il y a à étudier parce qu'on trouve beaucoup plus de livres qu'avant.
On a des graphiques d'ailleurs dans cette dernière salle.
Oui, tout à fait. Oui, pour montrer.
Oui.
L'effet un peu boule de neige est positif en fait sur l'alphabétisation et la baisse des prix du livre, même si faut pas aller trop vite en besogne, mais. Mais effectivement, les gens qui sont plus critiques vont faire émerger trois idées. La première, c'est que quand on imprime un livre, on a une responsabilité énorme. Et Rabelais, qui est médecin, nous dit si je commets une erreur dans un livre de médecine, je peux tuer quelqu'un. Donc on a une responsabilité quand on imprime un livre absolument gigantesque. La deuxième critique, enfin là c'est pas tout à fait une critique, c'est une prise de conscience un peu vertigineuse. Une critique, c'est que le contexte dans lequel l'imprimerie s'est déployée en Europe, c'est un contexte commercial et même assez sévèrement concurrentiel. Donc il y a des gens pour dire, on n'imprime pas que des bons livres, c'est d'abord une affaire marchande. Et la troisième chose qui a été soulignée, c'est que d'un seul coup, il y a vraiment eu beaucoup de livres en circulation sur le marché et qu'il fallait faire face à cette masse, et c'était neuf. Il fallait vraiment apprendre à gérer la masse et à frayer son chemin avec un minimum d'esprit critique à l'intérieur de cette masse nouvelle d'informations.
Et nous a semblé, faire un lien avec Internet.
Oui, il nous a semblé que ça résonnait pas mal en nous. Et effectivement, à la fin de l'exposition, il y a deux universitaires qu'on a invités à creuser de manière plus explicite les parallèles avec la mutation technologique qu'on vit, nous, en ce moment, avec le numérique, parce qu'il y a vraiment des points communs en termes de changement d'échelle et d'accélération.
Alors, l'exposition va s'arrêter mi-juillet.
Oui, le 16. Oui.
Il va rester le catalogue.
Oui.
Très beau catalogue, je l'ai déjà dit. Comment l'avez-vous conçu ? Quel découpage par chapitre ?
On a suivi le même fil que celui de l'exposition. Le même déroulé, donc essayer d'aller d'une certaine manière de l'atelier au lecteur d'aller de la technique vers la société, enfin d'essayer voilà de, d'aller de, du producteur du livre vers, le, vers ses lecteurs. Et on a effectivement suivi le même déroulé, donc on retrouve au catalogue des présentations de séries d'ouvrages qui correspondent en fait quasiment aux vitrines, avec des textes un petit peu plus développés parce qu'on est dans de bien meilleures conditions pour lire chez soi que quand on est debout dans une exposition, donc voilà, bien un sûr. Petit peu plus de matière.
Expliquez-nous la présence des cahiers qui sont plus petits dans le catalogue. Pourquoi ce choix?
Bah, l'idée était vraiment de faire du catalogue de l'exposition. Hein,
oui.
L'idée était vraiment que ce livre soit aussi un objet qui, sur le plan éditorial, témoigne d'une recherche un peu spécifique, un peu particulière, d'en faire quelque chose d'un petit peu original. Et donc les collègues ont beaucoup travaillé à la forme de ce livre. Et donc les articles, en fait, les grands articles bénéficient. Il y a deux papiers différents et les grands articles ont une marge un petit peu plus courte. Comme ça, on les identifie très bien. Et puis les pages qui sont un petit peu plus longues sont celles qui correspondent aux pièces, aux œuvres, aux vitrines, oui. En fait, au parcours
de l'exposition.
Donc il y a deux
niveaux de lecture.
Exactement.
Voilà, comme dans une expo.
Exactement. Oui. Et je pense qu'on peut, enfin, je l'espère en tout cas, c'est mon souhait, qu'on peut entrer dans le livre un petit peu comme dans un dictionnaire, dans des... voilà, on n'est peut-être pas obligé de le lire de la page 1 à la page 200, mais qu'on peut le prendre
Oui, je l'ai fait,
un
c'est
petit
ce
peu,
que j'ai fait d'ailleurs.
Ouais, j'en suis ravie, c'était ouais, vraiment, le, ouais, vraiment l'idée.
Oui, ouais,
tout à fait.
Très très bien. Alors, vous mentionnez les femmes typographes. Pourquoi c'était... difficile d'être femme et typographe, non?
En fait, on bute sur les sources. On bute sur des sources qui ne mentionnent pas les femmes. Comme dans d'autres domaines historiques, les femmes sont peu mentionnées. Du coup, on ne sait pas si elles n'étaient pas dans les ateliers ou si elles ne sont pas nommées, ce qui n'est pas la même chose. Alors, quand on les voit émerger, c'est au moment qui sont importants pour la transmission du patrimoine, c'est au moment où elles se marient ou bien au moment où elles deviennent veuves. Donc là, on voit les noms des femmes de typographes apparaître, mais on les voit plutôt à la manœuvre pour se remarier, marier leurs enfants, et au fond, ça ne nous dit pas vraiment si elles avaient de l'encre sur les doigts. Donc on ne sait pas vraiment quel était leur rôle potentiel dans l'atelier. Par contre, on a un exemple d'un atelier qui s'est déployé dans un couvent, San Jacopo di Ripoli, en Italie. Et là, c'est intéressant parce que les sources d'archives nous apprennent que c'était bien, ce couvent de dominicains est un couvent de dominicaines, et les sources d'archives nous apprennent que c'est bien les dominicaines qui manœuvraient la presse. Donc on a la preuve, là, par des archives claires, qu'effectivement, des femmes pouvaient manœuvrer la presse.
Et elles faisaient aussi bien ou elles vendaient aussi bien quand elles étaient à la tête, parce qu'elles étaient aussi entrepreneuses.
Bah, pour la deuxième moitié du XVe siècle, les cas sont si rares, ça se tient sur les doigts d'une main. Quoi. Ouais. À partir du XVIe, effectivement, il y a des femmes qui impriment en leur nom. On a par exemple le cas à Paris de Charlotte Guillard, qui a été très bien documentée par Rémy Jiménez. C'est vraiment effectivement une femme typographe. Elle choisit son fonds, elle imprime en son nom. Mais c'est vrai que souvent les femmes disparaissent derrière leur mari ou leurs enfants, et en fait on ne sait pas toujours si elles sont à la manœuvre. Quoi.
Et au fil des salles, au fil des pages dans le catalogue, on voit aussi on passe sur des apprentissages fondamentaux. Vous avez parlé des textes juridiques, mais on a aussi de très beaux livres sur l'astronomie, la cuisine, l'arboriculture, de très belles, très belles pièces. C'est vraiment à découvrir. Est-ce que le livre est toujours moderne? Il est fragile? Est-ce que ces livres vont disparaître?
Ça, ces livres-là, je ne crois pas qu'ils vont disparaître parce que on fait tout ce qu'il faut pour que pas. On déploie beaucoup d'énergie pour qu'ils restent en bon état. Aujourd'hui, le livre est concurrencé, c'est certain, mais c'est vrai que ces livres-là, qui sont des objets d'histoire, sont conservés dans de bonnes conditions à la Bibliothèque nationale. Et très honnêtement, on a quand même affaire, notamment sur les papiers, par exemple, à des matériaux qui sont plus résistants que les papiers du 19e siècle, par exemple. Donc, voilà, les papiers du 19e qui sont très acides, ou même les papiers des années 50, hein, encore très, très cassants. Voilà. C'est pas le cas de ces papiers-là qui se conservent plutôt bien, pour peu qu'on respecte quelques règles un peu fondamentales de conservation. Ça tient. Ils sont pas en mauvais état.
Et est-ce qu'on peut les consulter sur Gallica? Est-ce qu'il y a des possibilités d'accès pour le public pas spécialisé?
Oui, parce qu'effectivement, les salles de lecture de la Bibliothèque nationale sont accessibles aux gens qui ont plutôt une recherche en cours. Mmh. Mais toute personne qui a une recherche en cours peut accéder à la réserve des livres rares.
De vous à moi, ça ne fait pas des millions de gens quand même.
Ça ne fait pas des millions de gens. Gallica, oui, il y a pas mal de livres qui sont numérisés. Et alors, il y a deux sources sur Gallica. Il y a ce qu'on appelle les corpus, et il y en a un qui s'appelle Origine de l'imprimerie, qui est organisé un petit peu comme l'exposition, justement. Et il y a 900 imprimés du 15e siècle numérisés, et donc là, accessibles en libre accès sur Gallica, avec des chemins vraiment tracés pour vous aider. Et il y a un site vraiment formidable, c'est Les Essentiels de Gallica, sur lesquels il y a beaucoup de... Alors là, c'est plutôt tantôt des articles à lire, tantôt des vidéos à regarder, tantôt des choses à feuilleter, mais il y a énormément de voies d'accès aux imprimés de la deuxième moitié du 15e et aux estampes aussi de la deuxième moitié du 15e. Ma collègue Caroline Vran n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, il y a vraiment une symétrie dans nos travaux.
Alors donc, ça a dû vous prendre un temps. Combien de temps pour faire cette exposition, hormis les 40 ans de...
Oui. Alors moi, je suis un peu lente, mais... Je pense que... Oui, c'est à peu près 3 ans de travail. Mmh. Il se trouve que cette exposition était programmée avant la pandémie. On a donc croisé le chemin de la pandémie. Comme c'est un sujet très fondamental pour la Bibliothèque nationale, l'imprimerie, et qu'on... On n'était pas soumis à, je sais pas, une célébration, un anniversaire, enfin quelque chose qui aurait pu gêner dans la reprogrammation. L'exposition a été reprogrammée et donc on est très 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 content d'ouvrir dans des conditions normales.
Alors vous aurez d'autres projets d'exposition? Vous allez vous consacrer à vos réserves?
Alors moi, je vais me consacrer aux réserves. Mmh. Je vais reprendre ma vie normale. Mmh. J'ai pas de projet sur le feu, mais par contre, effectivement, à la Bibliothèque nationale, il y a quand même une offre assez variée en exposition, et il y aura, bon, je peux pas, peut-être pas tout dévoiler, mais non. Il y aura l'année prochaine effectivement des projets qui feront appel aux collections de livres anciens, et de manière permanente. Vraiment, aller au musée Richelieu, c'est une très bonne manière de rencontrer des manuscrits, des imprimés anciens, des estampes anciennes, et c'est un bel endroit.
Eh bien, écoutez, Nathalie, merci pour cette promenade.
Merci à vous.
Merci, et j'espère à bientôt sur d'autres projets, d'autres... et puis, de toute façon, nous retrouverons la BNF sur d'autres expositions. Frédéric, restons un peu dans cette période. La brosse, une basse danse. Rappelons l'urgence d'aller visiter cette exposition à la BNF, site François Mitterrand, jusqu'au 16 juillet. C'est ça, hein, jusqu'au 16 juillet. Alors, depuis le début de l'émission, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés. Alors, vous retrouverez ces références sur le blog du groupe Commune de Paris, Et les livres, vous pouvez les commander auprès de Publico, la librairie, 145 rue Amelot, Paris 11e. Vous pouvez aussi nous retrouver et retrouver des commentaires sur notre page Facebook au fil des pages et sur la chronique des idées et des luttes qui est publiée sur le site du Monde Libertaire. Troisième temps de l'émission, Varia. Alors, un ensemble de livres. Tout d'abord, un moment d'histoire, les fugitifs nazis. Alors, le titre, c'est pas difficile, c'est que j'ai donné à cette chronique, que vous pourrez retrouver, c'est le tas d'ordures d'Hitler. Alors, rassurez-vous, c'est pas moi qui l'ai inventé, quoique ça me gêne pas particulièrement. Vous verrez comment l'expression est venue. Alors, parmi les mythes de la Seconde Guerre mondiale, nous pouvons relever l'affirmation fallacieuse que les Alliés poursuivaient les nazis criminels de guerre jusqu'au bout du monde. Vous connaissez ces formules, jusqu'au bout du monde. Au bout, peut-être, mais pas chez eux, ni en Allemagne. Et au fil du temps, nous savons que les administrations allemandes ont accueilli avec bienveillance quantité de nationaux socialistes qui ne s'étaient pas trop compromis dans les crimes odieux de leur idéologie. Certains se sont même d'ailleurs taillés une belle réputation par leur sens de l'ordre et leur goût pour la bureaucratie. Je renvoie au livre « Libre d'obéir » de Johann Chapoutot, qui est paru aux éditions Gallimard en 2020. Mais le pire n'est pas là. Le pire n'est pas là, on s'en doutait, et je ne vous cache pas qu'en France, on a quand même récupéré un certain nombre de collabos qu'on a un petit peu blanchis. Le pire n'est pas là, c'est que ces mêmes alliés à l'Ouest ont protégé des criminels en échange de leur coopération dans la lutte contre le communisme. Et à l'Est, les méthodes de surveillance, de torture des populations furent appréciées par les autorités d'occupation soviétique, chacun appliquant ses compétences en matière d'espionnage au service de ses nouveaux maîtres. D'autres encore deviendront des trafiquants d'armes au bénéfice de causes qui pouvaient payer. En fait, la guerre froide fut le théâtre des aventures les plus étonnantes où les ennemis d'hier se rendaient service, l'argent n'ayant pas d'odeur. Et c'est l'historien Danny Orbach qui nous présente ces personnages en s'appuyant sur des archives officielles. On n'est pas dans du fantasme là, hein. C'est des archives officielles, notamment du Mossad, et des témoignages irréfutables dans son livre « Fugitif, histoire des mercenaires nazis pendant la guerre froide » publié aux éditions Nouveau Monde, là, cette année, en 2023. Alors, comment ces individus se sont-ils vendus aux Alliés? Tout d'abord, et pourquoi? Pourquoi sont-ils vendus? Comment? Pourquoi? Tout d'abord parce que l'Allemagne était en déshérence au lendemain de la guerre. Et pour survivre, pour faire vivre leur famille, ils cachèrent leurs crimes et servirent. Mais il y a aussi ceux qui passèrent à l'Ouest par anticommunisme. D'autres par rejet de l'Occident. D'autres encore par antisémitisme. Autrement dit, ont les illusions perdus conduisirent à rêver, même dans certains cas, d'un retour du Reich. Et ne croyons surtout pas, mais ça on s'en doutait un peu, l'idéologie nazie n'a pas disparu après le 8 mai 45. Et tout comme les collaborateurs en France connurent une belle carrière sous la 4e et la 5e, je l'ai dit précédemment, eh bien, les services secrets alliés firent évoluer les nazis à profusion. Alors, ce livre explore les fonctionnements internes des services de renseignement et les interférences fréquentes entre les opérations secrètes et les politiques nationales. Et pendant la guerre froide, l'action secrète a conduit des États à des collusions et à des crises internationales. Vous lirez en fait ce livre comme un roman d'espionnage, mais là, tout est vrai et suivant la formule consacrée, la réalité dépasse la fiction. Or, vous trouverez des passages assez étonnants. J'insiste, Danny Orbach s'appuie sur des documents déclassés, ce qui est plus, enfin, est-ce qu'on va considérer que c'est surprenant? C'est que les services secrets qui sont les plus fermés, c'est ben, les services secrets français et les services russes. Mais là, c'est pas non plus vraiment fondamentalement une découverte. Alors, que va-t-on y découvrir dans ces documents déclassés? Eh bien, par exemple, qu'un général allemand se doutait de la chute du nazisme. Bon, il n'y en avait plus là, à mon avis, mais il attendait son heure. Et après la défaite allemande, il va faire état de ses informations sur l'armée rouge. Il va constituer pour le compte des États-Unis un réseau de renseignement. Il va choisir parmi les nazis les moins infréquentables, ceux que l'on pourrait réutiliser en nettoyant, entre guillemets, avec la complicité évidemment des alliés, leur dossier. Et nous connaissons tous les scientifiques allemands spécialisés des V1 et, dans les V1 et les V2 qui partirent pour l'Amérique. Et il fallait donc choisir, dans, suivant la formule d'un responsable du FBI, parmi le tas d'ordures d'Hitler, ce qui pouvait servir. Et on peut apercevoir des agents doubles, voire triples. L'intérêt est financier. Certains se mirent au service des pays du Moyen-Orient par rejet des Juifs. Et des scientifiques se mettront au service de l'Égypte de Nasser pour construire des fusées dans le but de détruire Israël. On va créer des sociétés écrans pour faciliter les liaisons financières des trafics d'armes. Le FLN algérien va solliciter ces sociétés pour en obtenir. La Légion étrangère, en France, accueillera de nombreux vétérans de la Wehrmacht et de la Waffen-SS. Pour certains de ces personnages, pour mener la guerre de la race blanche en Algérie, par exemple. Tout ça, vous trouverez les éléments. Et puis, les échanges entre le Mossad, service secret israélien, et d'anciens nazis, Lès Pantois. Et vous lirez aussi, ça c'est, vous le connaissez, celui-là, ce sinistre individu, vous lirez la traque et la fin d'Aloïs Brunner, qui a été un des responsables de la Shoah, la fin donc de Brunner en Syrie en 2001. On n'a jamais réussi à l'arrêter. On savait où il était, on n'a jamais réussi à l'arrêter. Tous ces sinistres individus, bah, finalement, ont disparu dans l'oubli. Dès que les spectateurs ont détourné leur attention, on a fait autre chose, on a pensé à autre chose. Il reste que eux ne sont pas morts dans les camps, sous la torture ou d'une balle dans la nuque au bord d'une fosse commune. Et ça, c'est toute la différence. Dany Orbar, Fugitif, Histoire des mercenaires nazis pendant la guerre froide, aux éditions du Nouveau Monde en 2023. Alors, ce passage n'est pas forcément le plus sympathique, mais je trouve qu'il fallait néanmoins en parler. Alors, on va retrouver un peu de douceur et un peu de poésie avec Agnès dans la rubrique « Le son des mots ». Agnès, qu'en est-il de cette poésie? Ça t'a plu, ça, ce livre « J'ai rêvé » ?
Oui, c'est un recueil de Nadeska Vaskevitch. Et il est paru aux éditions Envole-moi. Pour présenter Nadeska Vaskevitch, elle est d'origine russe. Mais elle est surtout enseignante, traductrice, auteure et plasticienne, et ses activités sont étroitement liées à la création, l'art, la littérature et la poésie. Elle est devenue aquarelliste, mais c'est la poésie qui illumine sa créativité. Elle a ainsi composé un premier recueil de poésie, paru aux éditions Envole-moi. Un ouvrage que l'on remarque par l'originalité déjà de son format, très étroit et tout en hauteur, mais surtout pour sa couverture, affichant une aquarelle dans des bleus très doux, d'un voilier à marée basse. Être aquarelliste, dit-elle, c'est une façon d'exprimer ce que l'on ne peut pas ou ne veut pas verbaliser, un moyen de ne pas réfléchir, un plaisir du mouvement et de texture, une reconnaissance du quotidien. L'auteur Nadeska Vaskevitch, interrogée au sujet de la parution de ce livre de poésie, en dit ceci. J'y raconte de manière informelle ce qu'a été jusqu'à présent ma vie. J'ai regroupé mes vers, les tristes d'un côté et les joyeux de l'autre. On y voit le réel comme deux hémisphères. L'un détourné du soleil et plongé dans l'ombre, l'autre éclairé par l'aiguillante lumière de tendresse et d'amour. En somme, un résumé de l'existence de l'homme. Ces vers nous invitent à profiter du temps présent, ponctué par des aquarelles des quatre saisons, tout aussi saisissantes pour nous guider selon nos états d'âme. C'est un ouvrage d'une grande sensibilité dont je me propose de partager avec vous deux poésies. Du chapitre « En quelque sorte du printemps », j'ai choisi cette poésie joyeuse. « Je te vois, tu m'attends sur le trottoir d'en face, tends ton visage au soleil printanier. Au-dessus de ta tête, des oiseaux jacassent et les ramures bouillonnent, noyées dans le ciel qui s'étend d'un horizon à l'autre. Le souffle parfumé du vent remue tes cheveux comme l'auraient fait mes doigts. Quoi d'autre ? En manches courtes, pour la première fois, ta peau jubile, tu sens les fleurs du cerisier et tu chantonnes, peut-être. Je n'entends pas, je suis trop loin encore. Baigné par la lumière, tu humes les mois, au sujet aussi jeune que le monde qui vient de renaître. Je te vois, je suis à quelques mètres, le feu passe au vert et je cours vers toi. Du chapitre de l'été, c'est un haïkai sur l'Oise d'après un tableau de Camille Pissarro.
Camille Pissarro, qui était un peintre anarchiste.
Voilà. Je vous laisse écouter. La chemise de lin frémit au vent, frôle la peau, tombe sur l'herbe mouillée. Les foules sont tremblants, les pieds appréhendent le fond si froid, si obscur. La rivière si fraîche et ses baisers si ardents par la chaleur étouffante. Les rires retentissent sous les feuillages qui cachent les baigneuses rieuses. Elles s'allongent dans l'ombre, les herbes parfumées et drues chatouillent les cuisses nues. C'est une poésie si expressionniste qu'elle en devient, comme on dit, de certains tableaux hyper réalistes. On quête, on cherche le tableau d'origine évoqué de Pissarro, comme si nous y avions participé nous-mêmes à cet après-midi au bord de l'Oise. Un moment fort de ce recueil dont je vous recommande la lecture. Donc, J'ai rêvé, de Nadejda Vaskevitch, aux éditions Envol-moi.
Merci Agnès. Donc, là, un recueil de poèmes. Ça se termine sur l'eau. On va peut-être écouter la suite des jeux d'eau. Allô, Dominique.
Oui, bonjour Francis.
Bonjour. Alors, il fait chaud, il fait beau chez toi, là
Oui, oui, mais voilà. Il fait quand même moins chaud qu'en Égypte.
Ah, ben voilà. Alors, Donc justement, deux romans, Dominique, deux romans qui, je crois, se déroulent en Égypte.
Oui.
Alors, c'est tout d'abord La Société des Belles Personnes de Toby Nathan, qui est paru chez Stock en 2021.
Oui.
Hein? Alors, qui est Toby Nathan ?
Alors, bon, il est né en 1948 au Caire. Il est issu d'une famille juive qui a été expulsée en 1957, hein, à la suite de l'arrivée de Nasser. Mmh. Il est devenu en France un grand psychologue, un professeur de psychologie à Paris 8 et un écrivain. Il est l'un des représentants de l'ethnopsychiatrie française avec Georges Devreux. Et je vous conseille d'ailleurs de lire son livre qui s'appelle Ethnoroman.
Ethnoroman de
Toby Nathan.
De Nathan, d'accord.
Il explique comment l'ethnographie l'aide dans son métier de psychologue et de psychiatre. Mmh. Et d'ailleurs, il a créé la première consultation d'ethnopsychiatrie en France en 79, dans l'hôpital Avicenne de Bobigny, dirigé par Serge Lebovici. Et il reçoit beaucoup, beaucoup de migrants dans cette consultation. Et il a écrit 13 romans et 30 livres scientifiques. Donc il est sur deux plans, il est sur l'imaginaire, mais aussi sur la science.
Alors quel type de roman, et notamment ce livre-là, La Société des Belles Personnes, qu'est-ce ?
Alors c'est un roman historique qui démarre dans les années 50, où vous trouvez, alors il y a des personnages connus et des personnages inventés. Alors on va y rencontrer des SS qui ont trouvé refuge en Égypte à la fin de la guerre et ont fait une belle carrière.
C'est tout à fait ce que j'expliquais à l'instant, oui.
Bon,
on va faire une belle carrière, oui, tout à fait.
Oui, oui, oui. On va rencontrer Nasser et Sadat. Ensuite, la Shoah et la résistance française, les règlements de compte, parce qu'après, le personnage, le principal, part en France. Mais il parlera toujours de son héritage culturel, de la transmission qui existe en chacun de nous. Et lui, il parlera bien sûr des rituels de l'Orient, que ce soit musulman, juif ou copte. Et c'est vraiment, le livre se situe dans la lignée des livres de Mahfouz, le prix Nobel égyptien de littérature, qui a écrit Karnak Café, et des livres aussi de, je ne sais pas si tu as déjà lu Amin Malouf, Léon l'Africain, c'est dans cette veine-là.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette Société des Belles Personnes ?
Alors, au départ, ce sont des femmes. C'est une confrérie de femmes dans un quartier populaire du Caire, avec leurs chants, leur musique, leurs rites, leur magie. Il y a une Koudia, bon, c'est une magicienne de Bab El Zouéla, qui est la maîtresse des esprits. Et on retrouvera cette société dans un café de Money Montant quand le personnage partira en France et qu'il rencontrera des rescapés de la Shoah.
Et comment commence le roman, alors ?
Alors, il commence, non pas en Égypte, mais dans le cimetière de Pantin. François accompagne son père Zohar jusqu'à sa dernière demeure. On y apprend que Zohar en hébreu, ça signifie la splendeur, et que cet homme est né en Égypte, un homme du peuple. Et donc, en 1952, il doit fuir l'Égypte, chassé par Nasser. Et il va débarquer d'abord à Naples et puis ensuite en France. Et donc, c'est Livia, une généreuse et belle prostituée de Naples, qui va raconter, c'est comme un conte, qui raconte au fils la vie de ce Zohar.
Et il est, donc, alors lui, Zohar donc, est venu en France, il est resté en France ?
Il est resté en France et il a participé à la résistance. Et donc, il y a toute une partie du roman qui... Mais bon, la plus grande partie, quand même, concerne l'Égypte. Parce que c'est le portrait de toute une civilisation.
Oui, c'est ça. C'est toute une civilisation, là, qui est présentée.
Oui. Donc, il y a une critique, bien sûr, d'une partie du peuple égyptien qui a quand même soutenu les nazis, qui a accueilli Rommel en libérateur. Alors, il faut dire qu'il voulait se débarrasser du protectorat anglais. Et puis, également, il voulait se débarrasser du roi Farouk, qui était quand même un roi fainéant, on pourrait dire, qui achetait des voitures de luxe, qui multipliait les maîtresses, et un roi de carnaval. Donc, ils sont tombés sur des personnages comme le nazi Walter Hoff, qui était proche de Heydrich, qui est allé ensuite prêter main forte à Pinochet, ou encore Alois Udall, évêque catholique autrichien, ami personnel de Pie XII, qui rêvait de réaliser une synthèse entre catholicisme et national-socialisme, et qui a facilité la fuite des criminels vers l'Amérique du Sud.
Oui, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission. au mois de juillet, juste une émission à coller à la Grande Rafle, à la commémoration de la Grande Rafle, et on voit le rôle de l'Église catholique dans la fuite, enfin qui a contribué à faire fuir des criminels nazis et des collaborateurs français, dont le célèbre Darquet de Bellepoix. On en reparlera, puisqu'il y a un livre de Laurent Joly là-dessus.
Oui. Alors, il y en a un autre aussi qui n'est pas épargné, c'est le grand moufti de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini, ami d'Hitler et voix arabe des appels au meurtre des Juifs. Alors, j'ai appris, je ne savais pas, qu'il a été protégé par le Quai d'Orsay dans une belle villa de Saint-Maur-des-Fossés jusqu'à son infiltration au Moyen-Orient.
Et il a tout de même trouvé le moyen d'être à Berlin, ce grand moufti, jusqu'au 15 mai 1945, c'est-à-dire après 8 mai, quoi. Ça paraît le scoop de la journée, mais enfin, c'est intéressant,
Et puis, donc, on assiste aussi à la montée des frères musulmans, qui sévissent encore aujourd'hui. Donc, on y apprend plein de choses en même temps
Un roman, mais qui nous permet de découvrir une société.
Oui. Bon, et les femmes jouent un grand rôle aussi. Il y a beaucoup de rôles de femmes. Il y a Livia, qui est la prostituée, Talia, qui est une belle espionne, Paulette, évadée de Ravensbrück, et Marie. Donc, vraiment, les portraits de femmes sont très beaux.
Alors, ce livre-là, il est paru chez Stock,
Oui.
Les sociétés des belles-lettres, Toby Nathan, chez Stock en 2021. Mais tu voulais nous en présenter un autre aussi.
De chez Stock, d'ailleurs, qui vient de paraître, celui-là. La librairie du Caire, de Nadia Wassef, traduit de l'anglais par Sylvie Schneider.
Bon, on précise tout de suite que tu n'es pas l'envoyée de Stock. Citer deux livres dans la même émission, ça ne signifie pas.
C'est hasard.
Alors, la librairie du Caire, pourquoi est-ce que tu trouves intéressant ce bouquin? Ça fait appel à ton expérience?
Oui, parce que j'ai vu que là-bas, il y avait quand même très très peu de librairies. Et donc là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, avec deux de ses amies, sa sœur et une de ses amies, vont créer une première librairie moderne et indépendante en Égypte, la librairie Diwan. Alors, elles sont sans formation, donc elles vont affronter la censure, le patriarcat, le machisme, la religion, pour créer cette librairie. 20 ans après, elles ont réussi à créer une dizaine de succursales à travers tout le pays, 150 employés et des clients assidus. Donc c'est devenu une véritable institution en Égypte.
C'est vrai, ça, c'est pas un roman.
Ah non, c'est pas un roman. Non, hélas, je ne savais pas. J'ai découvert en revenant d'Égypte qu'elle existait, parce que là-bas, en fait, on en parle très peu.
D'accord.
Et alors, bon, malheureusement, donc après la révolution de 2011, Nadia est partie. Elle a confié le réseau à des personnes de confiance, mais elle dit que c'est très, très, très difficile de se maintenir quand on a des opinions politiques un peu différentes. Donc elle est partie. Comme Toby Nathan et comme Zohar, ce qui veut dire que les femmes libraires sont donc dangereuses.
Et les femmes qui lisent sont dangereuses, les femmes qui écrivent sont dangereuses, et les femmes libraires sont donc dangereuses aussi.
Oui, c'est des véritables hussardes de la liberté. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce livre. Enfin, il a à la fois plein d'espoir, mais aussi il termine sur une note un peu plus pessimiste.
Elles ont le courage, de diffuser des titres censurés par le gouvernement.
Et des romans féministes aussi.
Des femmes rebelles aussi. Alors, ce livre, la librairie du Caire, Nadia Wassef, on peut le trouver partout. On peut le commander, sur le site Publico. On arrive bientôt à la fin de ta participation, parce que tu vas partir en vacances, mais tu reviens après au mois de septembre. Donc, notre dernière émission avec toi, qui se déroulera le 28 juin, de quoi et de qui vas-tu nous parler ?
Alors, je vais vous parler d'une femme un peu étonnante, Constance Debray, qui fait partie de la grande famille Debray.
On n'est pas en train... Alors là, après avoir eu Stock, là maintenant, c'est Debray. Qu'est-ce que tu nous fais, là ?
Alors, non, mais vous verrez que c'est une femme très, très contestataire et très libre. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Non, N-O-M. Mais en fait, elle dit non à tout. Elle dit non à la famille, elle dit non à la succession, à l'héritage, au mariage. Donc,
c'est une remise en cause de la de la société et de toute la pesanteur de cette dynastie de Bré, mais au-delà de toutes les dynasties. Oui,
Donc dans la collection, j'ai lu.
C'est dans J'ai lu.
Oui, c'est dans J'ai lu.
Parfait. Eh bien, merci Dominique. Et nous retrouvons.
Comme je vais en Norvège, en septembre, je vous présenterai peut-être des auteurs norvégiens.
Ah ben voilà, en septembre, après le retour de Norvège, eh bien, nous aurons le plaisir de découvrir ces auteurs.
Oui.
Merci, allez, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, chers amis, quelques livres auxquels nous tenions. Nous souhaitions vous faire partager ce plaisir, notre intérêt. Surtout, n'oubliez pas l'exposition imprimée à la BNF jusqu'au 16 juillet, cite François Mitterrand. C'est donc terminé pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre écoute, votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire, nous envoyer. On a reçu là, tiens, on a reçu deux livres. C'est très... Donc on va les lire, on en parlera s'ils nous paraissent intéressants. Mais a priori, quand je vois les titres et je les ai feuilletés, ça me paraît tout à fait intéressant. Rendez-vous mercredi 28 juin 2023. Nous recevrons Laureline Fontaine, professeur de droit public et de droit constitutionnel, pour nous parler de son livre, quelque peu brûlot mais tout à fait d'actualité, consacré à l'anatomie du Conseil constitutionnel, avec pour titre « La Constitution maltraitée ». En tout cas, c'est argumenté en droit, c'est vraiment tout à fait intéressant. D'ici là, bonne lecture, et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite évidemment ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager. Frédéric.
Avec la peur qui tend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle. Et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
Qui le corrompt? Y a-t-il des martiens au-dessus de nos têtes? Sont-elles intelligentes les bêtes? À tous ces grands problèmes cruciaux, je reste sourd et muet, je suis l'idiot. Car pour moi, l'unique, la seule question, le super point d'interrogation, c'est
pourquoi les mulets qui font le trou du cul d'un rond. Dites-moi pourquoi les mulets font des crottes au carré. Dites-moi pourquoi les mulets font des crottes carrées. Ce chanteur, je pourrais quand je vois sa tête me demander s'il chante ou bien s'il pète. Ce ministre, ah quelle classe, quelle allure, s'il se fout pas un peu de notre figure. Mais je crois que ce serait peine perdue, puisqu'on est de toute façon cocu. Je préfère me poser, c'est normal, la seule vraie question fondamentale qui est. Dites-moi pourquoi les mulets qui font le trou du cul bien rond. Dites-moi pourquoi les mulets font des crottes carrées. Dites-moi pourquoi les mulets font des crottes carrées. Quand elle se pointera l'heure fatale, où les os bouffent la viande sous le futal, quand mes genoux seront devenus rotules, qu'ils prendront leurs vacances mes globules. Bref, quand je...
Femme libre.
Femme qui se libère.
Femme qui prenne la parole.
Femme qui témoigne.
Femme qui crée.
Femme qui se révolte.
Femme qui lutte.
C'est Femme libre sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, le libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous, 24e émission pour cette année 2023, émission féministe et anarchiste pour combattre patriarcat, capitalisme, religion, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste. Et avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Voilà, l'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Pour nous suivre sur le blog, eh bien c'est emission-femmeslibres.blogspot.com. On peut donc réécouter les émissions, avoir le programme, mais on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. 4 temps dans cette émission. Féminicide par compagnon ou ex. Tribune libre de Maréchaux. Backlash, attention backlash. Au sujet des reculs concernant les droits des femmes malgré MeToo. Et puis, en troisième temps, une rediffusion de l'interview de Xavier Gauthier, Retour à la Hague, Féminisme et nucléaire. Et c'était un livre qui était sorti en 2022 aux éditions Cambourakis. Et quatrième temps, des communiqués, des informations, des rendez-vous. Vous avez donc le programme, on démarre avec la rubrique féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie.
Domestique.
Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son
le
père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au
du
Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat
le
de...
Le corps d'une Allemande vient d'être
ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes. Reconnaissons le féminicide.
50, c'est le chiffre recensé dans les médias sur Internet des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France depuis le début de l'année 2023. Et c'est un chiffre à minima. De nombreuses affaires non comptabilisées sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Ce sont des féminicides conjugaux perpétrés par des hommes frustrés qui pensent détenir un permis de tuer. Ce sont des assassinats systémiques dont l'origine se trouve au cœur de notre société, dans l'éducation patriarcale qui est donnée aux hommes et qui les autorise à posséder femmes et enfants.